Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Emmanuel Robitaille avec vous encore cette semaine en compagnie toujours de mon acolyte Robert Blondin. Cette semaine, on vous parle de bonnes nouvelles parce que ça va bien dans le monde. Et on a comme invité cette semaine à l'émission Madame Michèle Sirois qui est clown thérapeutique pour la Fondation Dr Clown. Et Robert Blondin nous parle encore et toujours du bonheur. Bienvenue à Aime la vie. Bonjour Robert.
Bonjour, bon café.
Merci. Oui, j'ai un café aujourd'hui. Je suis dans un état où tu ne sors jamais de l'état de sommeil. Finalement, sommeil-réveil, il n'y a jamais eu de transition claire.
Comme disait l'autre, un état proche du Wyoming dans ce coin-là.
Non? Non.
Non, correct.
Eh bien, je suis contente qu'on en parle cette semaine. Je te parle du cerveau, Robert. Quand je te dis cerveau, tu penses à quoi?
Ben, intelligence, des choses comme ça, tu sais, assez simple. Là.
Intelligence est synonyme.
Ben, tu sais.
Mais on n'a pas juste un cerveau. On parle du deuxième cerveau.
Ah ben voyons donc, toi. J'en ai-tu oublié un quelque part, moi?
J'en rajoute une couche. Il y a même trois cerveaux, Robert.
Ça, c'est-tu juste sur pour le corps toi humain. Ou si c'est pour tout le monde? Là?
Tout le monde. Tout parce le que monde. Nous sommes tous les mêmes.
Vas-y, j'écoute.
Comme dirait Marc Dupré. Alors, on a un cerveau dans la tête. On a un cerveau dans l'intestin et on a un cerveau dans le cœur. Et ça, non, mais sincèrement, on parle du deuxième cerveau. On en a tous déjà entendu parler. Tu n'as jamais entendu parler du deuxième cerveau?
Non, écoute, non, jamais.
Bien, pour ceux à la maison qui nous écoutent et qui ont entendu parler de ce deuxième cerveau-là, qui est l'intestin, on en entend souvent parler, mais on ne sait jamais trop ce que ça implique, qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi on dit ça, puis qu'est-ce qu'il veut dire, cet enfant-là. Et il y a eu la troisième édition des Journées nationales de l'innovation en santé qui s'est passée du 26 au 28 janvier dernier à la Cité des sciences et de l'industrie. C'était en France et le Comité national de recherche scientifique proposait une thématique sur mes deux cerveaux. Ils ont présenté en fait deux dispositifs médicaux qui visent à guérir ce deuxième cerveau-là. Les deux dispositifs, c'est le symbiote et la capsule de capture de microbiote. Et je vois ici que tu es sur le bord de faire un anévrisme de mots.
Je sais,
c'est complexe. Hein? Écoute, je voulais avoir l'air intelligente.
Moi, j'ai rien qu'un cerveau pour comprendre. Il m'en manque deux comme ça.
C'est des grands mots, mais je suis là pour vous expliquer le plus simplement possible de quoi il s'agit. Mais j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Tout d'abord, quelques mots sur ce deuxième cerveau-là. Qu'est-ce que c'est? Notre deuxième cerveau, c'est l'intestin et ça gère aussi bien notre digestion que les émotions comme le stress, l'anxiété et ça a maintenant été prouvé, ça joue un rôle dans la dépression. Donc, extrêmement relié aux émotions. Vous le savez, quand on a une entrevue d'emploi ou quand on a un examen, si on est étudiant, on est stressé, on a mal au ventre. Puis c'est drôle, il y en a qui on le voit vite. Ah! Non, mais c'est une démonstration illustrée, là. Non, ça va?
Ça prouve des contractions, ça prouve pas le cerveau encore, là.
Ah. Bon. Il y a un vrai dialogue entre l'intestin et le cerveau, et c'est un dialogue bidirectionnel, c'est-à-dire dans les deux directions. Donc, ça va dans les deux sens. Et ils viennent de découvrir la nouveauté, c'est que l'intestin parle au cerveau. Notre intestin contient plus de 200 millions de neurones, comme les neurones qu'on a dans notre cerveau. C'est la même chose que nos animaux de compagnie. Fait qu'on s'entend que c'est pas bête, là. OK? Et les microbiotes, un des fameux mots que j'ai dit au départ, c'est simplement les milliards de bactéries qui sont contenues dans l'intestin. C'est le micro-organisme vivant qu'on a dans l'intestin. Et quand on pense aux prébiotiques, là, on suit que c'est logique. Tout ça tient jusqu'à présent. T'es d'accord?
Ben, je verrai à la fin.
100 000 milliards de bactéries dans l'intestin.
Bon, ça, c'est bien connu.
Et une seule... OK. Toi, tu connais bien.
Non, mais c'est le côté cerveau qui m'intéresse, parce que oui. Je l'ai toujours pas vu dans le microbiote, là.
Ben non, mais je viens de... 200 neurones qui pensent et qui envoient des messages avec des neurotransmetteurs sont dans l'intestin, sur la paroi de l'intestin.
La paroi.
Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Et ces bactéries-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils peuvent... Mais en fait, des neurones, il y en a partout, là, dans l'intestin, là. Et on se rend compte qu'une seule bactérie peut modifier le comportement ou l'état émotif de l'être humain. Et l'interdépendance est tellement grande que des fois, on ne connaît pas la cause et la conséquence. On ne sait pas d'où part quelque chose. Ils ont d'ailleurs fait des tests et ils ont remarqué que les gens qui ont le Parkinson, les troubles neurologiques qu'on voyait au cerveau, eh bien, on les voyait également sur les neurones de l'intestin et sont en train de considérer que ces troubles-là apparaîtraient peut-être même dans l'intestin avant le cerveau. Donc, ça s'en vient extrêmement important et sérieux d'aller commencer à étudier et à guérir ce premier intestin-là, surtout qu'il envoie des messages à notre cerveau et surtout que certaines maladies peuvent débuter là. Quand je vous parle de manipuler une bactérie, ils se sont rendus compte, on parle d'obésité, on parle souvent de mode de vie et d'alimentation, et il y a une espèce d'obstination généralisée sur le fait que j'ai des gros os, il y a l'aspect biologique, génétique de l'obésité. Bien, sachez qu'en étudiant le microbiote, donc notre deuxième cerveau, en regardant comment il fonctionne, on s'est rendu compte qu'en modifiant une bactérie, une seule, chez une souris non obèse, et qu'on la changeait en bactérie similaire à une souris obèse, elle devenait obèse, même si elle avait pas ce qu'il fallait au départ. Donc, il y a vraiment un aspect qui est biologique et qui pourrait être encore une fois dans l'intestin. Donc, on est en train d'évaluer des maladies comme le diabète, l'obésité, le Parkinson, les maladies cardiovasculaires, les troubles de l'humeur, qu'on est plus en santé mentale à ce moment-là. Et je pense que on est en train de comprendre l'importance d'étudier ce deuxième cerveau-là et on passera à côté d'avancées spectaculaires si on ne le faisait pas. Et Grenoble a compris et on a mis un dispositif qui est capable maintenant de récolter ce microbiote intestinal, donc une partie de l'organisme vivant de notre intestin, et de le moduler. Et on se rend compte que ce que ça va permettre, en fait, ça va permettre de soigner des pathologies qui ont un impact tout d'abord sur le microbiote, ce qu'on est en train de peut-être se rendre compte avec le Parkinson, parce que ce qu'on se rend compte également, c'est que quand on prend un comprimé, des fois c'est bénéfique et des fois ça ne l'est pas. Un médicament là, normal. Mais le temps que ça se rende dans l'absorption puis de l'intestin puis du côlon, c'est un petit peu long, jusqu'à 48 heures. Maintenant, si on agit directement avec la capsule de microbiote que je suis en train de vous proposer, ce qu'ils ont fait à Grenoble cette année, bien, on va avoir une façon d'agir beaucoup plus directement sur ce cerveau-là et de voir les impacts beaucoup plus rapidement et donc d'éviter des effets qui sont négatifs. Et on se rend compte qu'on va probablement mieux comprendre les relations de cause à effet, donc on va pouvoir cibler les causes d'une maladie, on va pouvoir intervenir dans le champ de la neurobiologie. Beaucoup de pathologies neurodégénératives et des maladies qui sont encore extrêmement mal comprises pourraient avoir leur cause dans le deuxième cerveau, qui sont l'intestin. Et là, je pense qu'on est à même d'avoir des avancées intéressantes.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus une métaphore qu'autre chose. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Mais ouais. Je pense qu'il y a peut-être un abus de vocabulaire de dire qu'il y a deux autres cerveaux. C'était peut-être en fait des succursales de notre cerveau qui sont des prolongements du cerveau et qui sont connectés avec le cerveau et non pas des cerveaux autonomes.
C'est ce qu'on a pensé longtemps. Ah, mais je suis là ici pour te dire le contraire.
Bon, mais écoute, dis-le le contraire.
Parce que ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que si c'était le cas, il n'y aurait pas de message... on n'aurait pas de message qui viendrait d'ailleurs. Donc, il y a un être pensant ailleurs dans notre corps et c'est ce qu'on a pensé longtemps et c'est ce qu'on est habitué d'entendre. Et donc, le cerveau pourrait maintenant changer d'appellation, disons-le comme ça. C'est simplement, comme tu dis, c'est sûr qu'il y a un jeu de mots à l'intérieur de ça.
Oui, mais... il y a une métaphore aussi là, qui peut être dangereuse au niveau scientifique.
Mais c'est ce que j'allais dire. Donc, ceux qui se disent scientifiques, là, la science est rendue ailleurs, c'est rendu scientifique. Et c'est ça que je trouvais donc bien intéressant dans cette histoire-là. On est capable de modifier et d'observer les modifications qu'on apporte à ce nouveau cerveau-là. Et on est en train d'ouvrir un nouveau champ de science qui est complètement innovateur et magnifique à mon sens, parce que quand je te parlais du troisième cerveau, je ne vous laisserai pas en pan comme ça, là. Le cœur, là, on s'est rendu compte qu'il a 40 000 neurones et c'est un système nerveux qui est indépendant et développé. Tu viens de dire que tu avais ce questionnement-là, ça te laissait un peu dubitatif. Le cœur peut prendre des décisions, passer à l'action indépendamment du cerveau. Il peut apprendre, se souvenir et percevoir seul. C'est là qu'on est rendu. Et quand on dit « écoute ton cœur », c'est pas fou.
Qu'est-ce que tu fais des transplantations cardiaques là-dedans?
C'est quoi ta question?
Ben, t'as le cœur d'un autre dans l'estomac. C'est le troisième cerveau d'un autre
c'est
qui
incroyable.
Va décider des choses.
C'est incroyable ce que tu dis là. Écoute, pour vrai, je te reviens avec ça la semaine prochaine. J'évalue et je cherche parce que moi, je suis beaucoup dans l'énergie. On le sait qu'on vit dans un monde de vibrations et d'énergie. Ça, c'est vraiment plus nouveau, là. Mais la communication énergétique du cœur est extrêmement importante. Le champ électromagnétique du cœur, c'est le plus puissant de tous les organes. Il est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Et on a observé qu'il varie en fonction de l'état émotif et qu'il a un champ de 2 à 4 mètres qui dépasse du corps. Donc, chaque personne qui devient dans notre entourage et dans notre cercle proche peut ressentir ce qui est dans notre cœur. C'est réel, là!
Comme un cœur cellulaire, là. Il diffuse.
Exactement. Mais il n'est pas diffus. Oh! Un diplôme du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Elle a d'abord été infirmière en Suisse, puis au Québec, comédienne au théâtre, à la télévision, au cinéma, tant au Québec qu'à Toronto. Elle a aussi complété une formation en jeu clownesque. Elle est animatrice à Air Libre sur Ma TV, comédienne, auteure, conférencière, et en 2005, elle fait partie de l'équipe des clowns thérapeutiques chez la Fondation Docteur Clown, où elle travaille auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en hébergement. Michèle Sirois, bonjour.
Bonjour, Emmanuel. Je vous promets que je dors aussi. Je fais pas juste travailler.
C'était d'ailleurs une de mes questions. Michèle, est-ce que tu dors?
En fait, c'est parce que j'ai beaucoup d'années de vie. J'ai 58 ans, puis c'est vrai que j'ai comme un long récit, j'ai un long parcours, puis c'est vrai que j'ai touché à beaucoup de choses. Puis c'est sûr qu'avoir été d'abord infirmière, puis ensuite comédienne, j'ai mélangé ça, puis ça m'a amené à faire toutes sortes d'autres professions. Alors, j'ai l'air d'être bien, bien occupée, je le suis, mais j'ai aussi beaucoup d'années de vie, on va dire.
Mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un curriculum vitae absolument extraordinaire et tu l'as bien dit, tu as réussi à combiner les deux dans une espèce d'amalgame absolument génial. Mm. Mais avant de parler de toi, de ce que tu fais, mais de qui tu es également, là tu nous as dit quelque chose pendant l'intermission musicale qui m'a absolument, qui nous a arrêté. On parlait du troisième cerveau qui est le cœur, qui est indépendant et du cerveau et qui peut ressentir, apprendre et écouter indépendamment du cerveau. Et Robert, toi, t'as posé une question qui tu t'es demandé en, dans les transplantations cardiaques,
est-ce que j'ai le troisième cerveau d'un autre?
Exactement. Et tu aurais quelque chose pour nous éclairer,
toi? Oui, moi, c'est sûr que mon travail de clown thérapeutique, je travaille beaucoup au niveau du cœur. Hein. C'est un travail de relation, c'est un travail de rencontre. Et je travaille, entre autres, à l'hôpital Sainte-Justine et il y a une éminente chirurgienne cardiaque, Dr. Vobecky, pour la nommer, qui transplante des cœurs chez des petits poupons, des petits-enfants. Mmh. Elle répare des cœurs, mais elle en transplante aussi. Et dans ses notes médicales, elle met toujours, après une transplantation, visite des docteurs clowns. Alors, les petits sautent aux soins intensifs, on se croise les doigts que la greffe va tenir, et elle écrit dans ses notes. Alors, nous, c'est sûr que comme artiste clown thérapeutique, on se pète les bretelles, puis on fait « Hey, la chirurgienne, à nous de bande », puis on se trouve bien bon. Et on va effectivement visiter l'enfant et les parents qui sont
mais
au chevet.
Mais pourquoi, Marc, ça?
Et une fois, on lui a demandé, on a dit « Docteur Vobecky, vous êtes pas mal fine, on aime ça, mais pourquoi? » Elle dit « Je rigole pas du tout. » Elle dit « Ce cœur-là appartenait à un autre enfant. Il est maintenant dans le corps d'un autre. » Là, je répète ces mots, je simplifie. Là. Oui. Mais elle a dit « Pour moi, c'est très important que ce petit cœur-là s'approprie les émotions de son nouvel ami. » Parce que là, cet enfant-là vit de la douleur, vit du stress. Et moi, je veux aussi que ce petit cœur-là réapprenne à aimer, à rire, à se sentir en confiance et en relation. Alors, elle rigole pas. Et quand on la rencontre dans le corridor, elle dit « T'as été voir mon enfant, là? » Puis on fait « Ben, on va y aller. Non, tu y vas maintenant, là. » Bon, j'ai l'air de la dépeindre comme si elle était une tyran, mais elle n'est pas du tout. Elle est fabuleuse.
Non, mais elle prend ça au sérieux.
Oui, et pour elle, c'est important que le cœur vive des émotions. Un cœur greffé, je veux dire.
Sur le nouveau récipiendaire.
Voilà. Voilà.
Intéressant.
Oui. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas d'études, mais elle a compris, puis elle a mesuré que c'est important qu'il y ait ça aussi.
Les scientifiques peuvent avoir des intuitions aussi, hein?
Oui. Oui, sans nécessairement faire des recherches puis quantifier tout ça. À un moment donné, l'expérience te fait dire, ben voilà.
Parce qu'on sait que le cœur est un troisième cerveau et donc une intuition reste une forme d'intelligence.
Il y en a qui disent ça, non?
Et ce qui est magnifique, c'est qu'on dit que le cœur ne vieillit pas non plus.
Absolument, absolument. Et qu'il a la vérité. D'ailleurs, pour ajouter un petit peu à ce que je disais, non seulement est-il indépendant, mais il peut penser indépendamment des souvenirs de l'esprit, etc. Donc, il y a une espèce de vision beaucoup plus claire de la réalité qui n'est pas teintée par les blessures de l'homme. Ça, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais revenons à toi.
Allô.
Cher Michel.
Allô.
Merci infiniment pour cette réponse-là, tellement riche, tellement originale. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais
surtout des réponses qui lui donnent raison. Elle adore
ça. Moi, j'adore ça. Je regrette, Robert, j'aurais aimé ça. Mais bon, c'est ça que j'avais à dire.
Tout d'abord, on a parlé de ton curriculum vitae qui est long et qui est impressionnant et qui est magnifique, mais qui est toujours dans la relation avec l'autre. N'en demeure pas moins que j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a mené en tant que femme à ajouter, premièrement, une formation clownesque à ta formation de comédienne. C'est pas suffisant. Ça suffisait pas,
non,
ça.
Non, ben c'est sûr, au conservatoire, on avait fait une petite session de clown pour apprendre qu'est-ce que c'est que le jeu clownesque. Mais en fait, je pense que... Je suis toujours proche de mes valeurs. Alors, je suis toujours infirmière un jour, infirmière toujours. Oui, c'est d'abord la première profession que j'ai pratiquée. Et il y a quelqu'un en dedans de moi qui a le goût de prendre soin. J'aime penser que je peux soulager ou apporter un bien-être. J'étais petite, je faisais ça avec mes poupées, je faisais ça avec ma mère. Donc, ça a resté. Donc, infirmière à l'aide de soi. Mais je suis une fille aussi qui aime jouer, qui aime les arts et tout. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire comédienne. Puis, à quelque part, je me disais, ça se ressemble aussi parce que être comédien, c'est prendre soin aussi. C'est de raconter des histoires. C'est d'amener les gens dans l'imaginaire, dans la poésie. Donc, c'était une autre façon de prendre soin. Mais en fait, pourquoi clown thérapeutique? C'est parce que j'ai été en contact avec une équipe de clown thérapeutique quand je visitais une amie en Suisse. Elle m'a dit, j'ai des clowns. Elle est directrice d'un petit hôpital pour personnes âgées. Puis elle m'a dit, oh, c'est chouette, cet après-midi, j'ai mes clowns qui viennent visiter mes personnes âgées. J'étais bien découragée quand j'ai entendu ça. J'ai dit, oh mon Dieu, le mauvais spectacle à mauvaise place.
Ah ouais.
Et puis, il faut que tu viennes voir, c'est chouette. Puis bon, c'est une amie que j'aime beaucoup, qui est une ancienne infirmière, qui est directrice maintenant. Puis j'ai été voir. Et là, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, que la bienveillance, l'ouverture, l'humour, la tendresse ouvraient les cœurs, justement, on parle des cœurs, et permettaient aux personnes âgées de communiquer, d'être en relation, de se faire entendre et de se sentir encore important pour quelqu'un. Alors, je suis revenue au Québec en me disant, ben, je veux faire ça. Et j'ai découvert que la Fondation Dr. Clown existait. À ce moment-là, ça avait 2-3 ans d'âge. Et... Avant d'être acceptée chez Dr. Clown, il faut d'abord faire une école de clown pour trouver qui est notre clown. Mm-hmm. Parce que comme je dis toujours, même vous, Robert, vous avez l'air comme ça, sérieux, avec vos beaux yeux bleus, mais vous avez un clown à l'intérieur de vous. Ah oui, OK, j'ai même pas besoin de vous convaincre.
J'ai fait ces ateliers-là aussi.
Ah, c'est vrai? Bon, vous devez avoir un beau clown en plus. Emmanuel aussi, il y a un clown qui sommeille en vous.
Oh mon Dieu, ça, sans aucun doute.
Alors, c'est ça. Alors, j'ai été faire une formation pour découvrir ma clown, qui est Dr. Petit Pas, qui est-elle? Alors, ce qu'on fait dans les écoles de clowns, c'est 125 heures de formation. On apprend à exagérer ce qu'on a en trop pour devenir clownesque, finalement. Mmh. Mais on ne veut pas perdre notre humanité. On n'essaie pas de faire rire, on essaie d'être touchant et drôle en étant soi-même, mais juste un petit peu plus gros. Alors, j'ai fait ça, puis j'ai été passer des auditions chez Dr. Clown, puis j'ai été acceptée. Puis là, j'ai re-eu une formation pour adapter mon jeu à la clientèle qu'on allait visiter. Moi, c'est sûr que j'avais un background d'infirmière, fait que c'était plus simple pour moi que pour d'autres, mais cela dit, il faut quand même passer à travers cette formation-là. Et j'ai commencé à travailler, ça va faire bientôt 13 ans.
C'est incroyable, mais justement, parce que vous travaillez, vous, pourquoi je te vous vois?
On va se dire
je vous tute. Je vous tute. Mais tu fais une approche de clown thérapeutique à la fois auprès de jeunes enfants et de personnes âgées. Qu'est-ce qui différencie les approches?
Bien, c'est deux âges différents, c'est sûr. L'enfant est beaucoup dans le jeu, dans l'imaginaire aussi. Moi, je dis souvent que je ressors plus fatiguée quand je travaille avec les petits qu'avec les personnes âgées.
Ah oui.
Parce que les petits, ils en veulent beaucoup. Puis malgré les grandes maladies dans lesquelles ils se retrouvent, des fois, ils ont toujours ce spring-là, ce feu-là de vouloir jouer. Quand on va chez les personnes âgées, la clientèle qu'on visite, 80 % d'entre eux ont des troubles cognitifs, donc de type Alzheimer ou autre. Donc, il faut vraiment être capable de dévisser notre cerveau, celui qu'on a dans notre tête.
Le premier.
Bon, le deuxième, j'étais pas trop au courant du deuxième, mais en tout cas, se connecter sur le troisième beaucoup, parce que la mémoire qui reste quand on rentre dans une démence, c'est la mémoire émotive, c'est la dernière qui quitte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller beaucoup dans le rythme, dans l'écoute, dans le moment présent. On a adapté tous nos costumes, on laisse le sarrau de Dr. Clown à la maison et on s'habille avec des vêtements des années 50 pour faire appel à la réminiscence, pour faire appel à leurs souvenirs anciens quand ils en ont encore. Alors, c'est une belle façon d'entrer en relation avec eux.
C'est un gros catalyseur affectif.
Et
là,
beaucoup,
je veux dire,
beaucoup. Et puis, on se comporte comme dans les années 50.
Wow.
Les garçons font les baise-mains.
Oh,
on a appris les chansons des années 50. Moi, je suis rendue une experte des chansons de Dominique Michel.
Ah, oui.
Et puis, ben voilà. Alors, donc, on se sert de cet outil-là. Et pour ceux qui sont très profondément affectés, alors c'est beaucoup dans l'énergie, le toucher, le regard, la danse, la musique. La musique est encore extrêmement... a un grand, grand pouvoir encore, même chez les âgés qui sont atteints de troubles cognitifs.
À la fin d'une session comme ça, qu'est-ce qui vous dit que ça a super bien marché, que ça a vraiment apporté quelque chose? Il y a un signe, non?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y en a plusieurs. D'abord, le personnel. Les familles, quand ils sont là, parce qu'ils ne sont pas souvent là, mais les personnels nous disent vraiment « Oh, quand c'est la journée des clowns, c'est tellement différent, l'ambiance est différente quand vous quittez. » Et je dirais aussi que physiquement, quand on rentre dans les chambres et la personne est recourbée sur elle-même, les yeux dans le vide, se tient les mains, et quand on ressort au bout de 10-15 minutes, elle est déployée, ouverte, les épaules sont relevées, et elle nous fait un babaille de la main, et nous dit quelque chose, mais on se dit, il s'est passé quelque chose, là. Il y a eu vraiment une rencontre. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller les rejoindre dans leur monde pour les amener dans notre monde.
Oh, wow,
ça fonctionne bien.
J'aime vraiment ça. Puis tu l'as nommé, je veux dire, vous avez une formation qui est d'énormément d'heures. Et
c'est une formation continue. Oui, tout à fait.
Parce que, tu sais, d'aller chercher, de puiser en soi, d'amener ça vers quelque chose d'un peu une caricature de nous-mêmes, tout dans l'empathie, dans l'intégrité, je veux dire, c'est la ligne, c'est une lame de rasoir, c'est un fil d'argent, là.
Oui, mais je suis contente que tu le dises, parce que des fois, on est dans les chambres, puis plus chez les personnes âgées, chez les petits, c'est beaucoup dans le jeu, hein, on travaille toujours en duo, donc, et l'idée, c'est de toujours remettre le pouvoir à l'enfant. Donc, c'est l'enfant qui décide où ça va aller, et souvent, il y a une alliance qui se fait avec un des deux clowns. Puis c'est le deuxième clown qui est dans le pétrin, qui est dans les patates, puis qui finalement devient drôle. Et donc ça, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne avec les petits. Quand on est chez les personnes âgées, justement, avec les troubles cognitifs, on marche vraiment sur des œufs. Et ça demande énormément d'écoute. Beaucoup, l'intelligence émotionnelle doit être déployée à la puissance 10 pour s'assurer qu'on va vraiment dans le sens pour amener du bien-être à la personne. Mais on a une formation, on est formé par des neuropsychologues, des infirmières, des médecins, et on travaille toujours en duo. Alors, il y en a un qui
clone
va prendre...
Clone rouge,
ouais,
c'est ça,
oui, oui, oui. Puis il y en a un qui va prendre le lead, il y en a un qui va sentir par où aller, et puis l'autre va suivre. Alors, mais il faut y aller vraiment avec une grande délicatesse puis un grand, grand respect.
Quand un clown est triste, ça va moins bien. Est-ce qu'il peut, se guérir en faisant des affaires dans le miroir?
je ne sais pas, mais comme clown thérapeutique, je reviens encore sur le fait qu'on est en duo et on se fait toujours un briefing avant de commencer. On a d'abord un lien avec le personnel soignant qui nous explique qui on doit aller voir parce que c'est des personnes ciblées. Là, on ne décide pas, nous, si on va aller voir telle madame. Alors, on a un briefing. S'il y en a un qui a des troubles dans sa vie, il va en parler. Alors, l'autre sait que dans cette journée-là, il va falloir qu'il se soutiennent un peu. Et je dirais que souvent, le fait de donner sa présence aux patients qu'on visite, de prendre soin de l'autre, on vient qu'on oublie et ça nous nourrit. De toute façon, il y a des recherches en neuropsychologie qui prouvent que quand on est dans l'acte de donner, d'offrir, on a des hormones de bien-être qui sécrètent. Alors, si jamais la journée part un petit peu difficilement, on sait qu'on a notre partenaire sur qui nous appuyer. Puis ensuite, juste dans le jeu, on se trouve. Souvent, on finit la journée plus de bonne humeur qu'on l'a commencé.
Donc, c'est thérapeutique pour tout le monde.
Oui,
ceux qui
tout
participent,
à fait.
Ceux qui le reçoivent. Ouais. Mais il doit y avoir quand même des moments où comme tu l'as dit, vous êtes ensemble là-dedans, donc il y a un moment où il y a une place pour ventiler.
Oui.
Tout ça, je veux vraiment nommer le fait que tu fais de la scénarisation, de la production de vidéos, des outils pédagogiques qui s'adressent aux médecins et aux professionnels de la santé dans le domaine gériatrique. Tu as publié un ouvrage pour le grand public qui se nomme « Vieillir en santé, c'est possible ». Également, « Clown d'hôpitaux, c'est du sérieux ». Tu offres des conférences au grand public sur ce sujet-là aussi. J'aimerais savoir... jusqu'où l'implication va? Pourquoi tu ressens ce besoin-là de ramener ça, d'étendre ça et d'aller plus loin que simplement les bénéficiaires du service directement?
Je ne sais pas. Je pense que je suis quelqu'un qui aime... Je suis ma mère, puis j'aime ça avoir la lumière sur moi, j'imagine. C'est ma blessure narcissique, probablement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a probablement une part de ça que j'aime communiquer. C'est sûr que j'aime parler de mes valeurs, puis échanger et communiquer.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'il y a ça. Écoute, c'est une très bonne question.
Il n'y a pas grand monde qui avoue que ça peut être une blessure narcissique.
C'est incroyable. Ça fait de toi la personne la moins narcissique sur la planète Terre. L'ancienne psychologue en moi te le dit. Mais quand même, tu as une implication qui est extrêmement grande, la sensibilisation. Et moi, tu as nommé quelque chose, véhiculer mes valeurs, je trouve ça important. Et moi, déjà, de me parler de ça, je ne sais pas l'effet que ça a eu sur toi, Robert, mais moi, ça l'a démystifié énormément et c'est contagieux ce que tu y fais.
Oui, tant mieux.
Ça fonctionne, en tout cas.
Ça fonctionne, puis quand on travaille, nous, on a le sourire aux lèvres. Puis quand on rentre à la maison, on sait pourquoi on s'est élevé, parce qu'on a amené de la joie dans la vie de gens qui passent à travers des périodes de difficultés. Alors, on se sent king pas mal. On vient et on dit « Hey, cet enfant-là, on a réussi à le faire rire. » C'est son deuxième cancer. Les parents sont déprimés. Puis nous, on a foutu le bordel dans la chambre pendant 15 minutes. Hey, je suis king, moi, là. Voilà.
Wow! Merci d'être venu partager ce qui te rend heureuse parce que de donner du bonheur aux autres, ça te rend aussi heureuse et ça paraît. Tu es une femme épanouie et moi, j'ai adoré te rencontrer. Merci infiniment, Michel.
Merci à vous. Puis...
Bravo.
Merci vraiment. À Robert.
En début d'émission, quand les micros étaient fermés, tu m'as dit « Aujourd'hui, je vais te surprendre, j'ai des surprises, je sais pas trop, moi je l'attends encore. » Mais moi, je suis un enfant, là, tu me dis ça, là, puis j'ai la curiosité dans le piton.
Ouais, mais là, je vais te faire travailler à la place.
Ah oui.
Déjà, là, c'est moins intéressant. Donc, tu veux qu'on parle de bonheur encore?
J'aimerais beaucoup ça.
Je vais te parler de la troisième caractéristique des gens heureux, encore une fois, à travers toute l'histoire de l'humanité.
J'aimerais que tu nous rappelles la phrase qui chapeaute la grande étude de 3 ans que tu as fait.
Le bonheur, c'est marcher dans la nature à la rencontre de nos tendresses. Dans chacun de ces mots-là, il y a un chapitre complet des livres qu'on a écrits là-dessus.
Donc, 6 aspects du bonheur que tu as retrouvés à travers le monde, à travers les âges, à travers les cultures. Il semble que les gens sont heureux pour les mêmes raisons.
Ont toujours été heureux. Ouais. Ils sont encore toujours heureux dans toutes les cultures, sur toutes les latitudes, pour les mêmes raisons.
Mm-hmm.
C'est ça, les 6 raisons. Et on parle de la troisième aujourd'hui.
On est rendu à la troisième.
C'est la conscience tout bête, du ici, maintenant. Facile à dire.
Non.
Facile à dire, ouais. C'est vite dit.
Et on l'entend souvent.
Mais à vivre, c'est autre chose.
C'est quoi? Ouais.
C'est ce qu'on sait moins, nous, les Occidentaux, c'est que c'est la base du bouddhisme.
Absolument.
Bon. C'est-à-dire que quand tu vis quelque chose, à chaque moment où tu vis quelque chose, c'est pas tout de le vivre puis de l'accepter. Bon, ça, c'est très psychologique. Là.
Ouais.
Mais on va beaucoup plus loin que ça. C'est de le vivre consciemment.
Ouais.
D'être conscient que là, il se passe telle chose. J'ai la tête légèrement à gauche, je fais ça,
ah,
ça
ouais,
me
oui.
plaît, ça me plaît pas, etc., etc. Mais à tout bout de champ, c'est pour ça qu'ils parlent souvent de méditation. La méditation, c'est de faire le point sur les ici, maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait dans les heures précédentes? Qu'est-ce qui s'en vient? Où suis-je actuellement?
Je t'arrête parce que je médite tous les jours.
Oui.
Robert, et quand je me suis mise, moi j'ai un cerveau hyperactif et arborescent, je
ne
sais pas si
trois,
tu t'es rendu compte, le premier,
okay.
le pas mal tout de toute façon, mais non, le premier, et au début je pensais que ça allait être absolument impossible de méditer, et j'adore ça et ça change ma vie, mais il y a une des choses que j'ai remarqué quand tu parles de pleine conscience et de j'ai la tête à gauche, j'ai la tête à droite, quand tu te mets à t'arrêter au moment présent et que tu te mets à avoir un focus, tu te dis « OK, je dois réaliser ma respiration. Où sont les tensions dans mon corps? À quoi je pense actuellement? Mes positionnements, les bruits environnants, les odeurs? » Il y a tellement de stimuli dans un moment présent, Robert.
Absolument.
Imaginez quand on s'étourdit à faire 14 affaires en même temps. Et le multitasking, donc être multitâche ici, c'est très bien vu, alors que c'est complètement à l'encontre de la pleine conscience. Je voulais nommer
fait.
Ça.
Tout à
c'est
fait.
Incroyable ce qu'on a
Mais
réalisé dans un moment
montrer,
présent.
Et on peut le faire. Tout est possible comme exemple, évidemment, tous les moments de la vie.
Oui.
Mais prenez le fait de prendre un verre d'eau.
Mm-hmm.
Tu prends un verre d'eau, elle est fraîche, tu avais soif, ça va humecter la bouche, c'est très bon, c'est froid, etc. Avalez-en un petit peu et mâchez le reste. Mâchez le restant de la gorgée d'eau. Mâchez une gorgée d'eau, ça vous rend conscience d'un paquet de caractéristiques de l'eau que vous ignorez complètement, vous ne les soupçonnez pas seulement. Essayez ça. Prenez un verre d'eau et mâchez vos gorgées d'eau.
Tu ne le diras pas, faut le faire, faut l'essayer, c'est ça?
Ah oui, okay. Absolument. C'est très, 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 très okay. pratique.
Wow.
C'est aussi simple que ça, la troisième caractéristique. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais il y a des gens dans le monde qui arrivent à le faire, soit intuitivement, ça, ça existe aussi, soit évidemment parce que par l'apprentissage. Mais ce que je voulais te faire aujourd'hui, on le fera une,
oui,
deux reprises si tu veux. Oui, oui, oui. Non, mais écoute, on a fait des grandes études sur le bonheur, ouais. des questionnaires, etc. Alors, on va te faire répondre à quelques-unes des questions aussi. Okay?
Faut que je me livre.
Bien, tu sais pas ce que tu voudras.
Okay?
Je voudrais que tu me commentes ce que je vais te dire.
Okay.
La première, c'est une pensée de Pascal, le bon vieux Pascal, le philosophe, qui a dit « J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est des impossibilités de rester seul dans une chambre pendant plus d'une heure. » Dis-moi ce que tu en penses.
Je pense qu'il a raison. je remarque à l'intérieur de ça que tout ce qui est retraite méditative, et qui, moi, j'ai écrit là-dessus, d'ailleurs, un petit chapitre à l'idée qu'on a fait des tests ici, entre autres à tester sur les humains l'émission qui passait avant à la télévision. Puis Arrive-Laure a fait le test et il a prouvé l'aliénation que ça fait d'être seul dans une chambre pendant une nuit, alors qu'on a des gens au Tibet et qui pratiquent le bouddhisme et qui font des retraites pendant des semaines et des mois, on est incapable d'être seul avec soi-même, être seul avec le silence, l'absence de stimuli, de lumière, de... C'est vrai.
Alors, donc, il faut arriver à pouvoir le faire.
Exactement.
Et être bien dans sa peau. Deuxième assertion que je voudrais que tu me commentes, c'est est-ce que le choix d'un métier est crucial pour son bonheur dans la vie?
Je pense que oui.
Pourquoi?
Mais parce que pour moi... Actuellement, on parle de la place de travail, mais je lisais un livre et moi, c'est mon mojo depuis que je suis jeune. Je dis, je devrais être payé pour respirer, en fait, exister et la fonction primaire de l'être humain. Et on l'oublie souvent. Et quand ça deviendra l'endroit de joie et non pas l'endroit de travail, on ne travaillera pas une journée dans notre vie. Alors, pour moi, le labor, là, pour moi, doit absolument changer et il va changer. On doit être heureux dans tout ce que l'on fait, la joie. On est ici pour être heureux. On n'est pas ici pour faire quelque chose qu'on n'aime pas du matin au soir. C'est impossible. C'est pas vrai. Je ne croirai jamais à ça.
On va tomber dans une discussion marxiste-léniniste là-dedans sur le capital, le travail, etc. Parce que c'est pas facile à réaliser. Est-ce que le fait que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est-tu un mensonge ou si c'est vrai?
Je pense que moi, là-dessus, j'ai un barème. J'ai un threshold en anglais qu'on dit qui est comme un point de... Attends, Jean-Sébastien me glisse à l'oreille. C'est quoi en français? Un seuil, merci. Un seuil de base, c'est-à-dire que quand j'ai fait d'ailleurs une émission complète sur l'abondance, sur le Canal M ici, et je parle que c'est important d'avoir la base, par contre, parce que quand tu as des soucis financiers, tu n'as même plus la place pour l'essentiel qui est de méditer, de réfléchir, de grandir à l'intérieur de toi, d'avoir des réflexions plus profondes que simplement survivre. On vient à un niveau de vie qui est complètement vide de sens. Donc, je dirais qu'il y a une base, mais quand on parle d'accumulation, d'avarisme, de luxure, là, on est ailleurs. Donc, je mets un bémol là-dessus, je ne suis pas toute grise, okay, je suis grise.
Tu as prononcé le mot luxure. Pourquoi le vertige amoureux? Je ne parle pas de l'amour, mais le vertige amoureux... Hein,
qu'entends-tu par vertige?
Pourquoi ça nous semble la forme la plus ultime, la plus intense de bonheur pour tant de gens?
Ah, oh, mon Dieu, que c'est difficile ta question. Le vertige amoureux, tu parles de cette lune de miel-là, de l'espèce d'effet...
Le coup de foudre, là.
Oui, c'est ça. Pourquoi ça semble être le bonheur ultime? Pour plusieurs personnes?
Parce qu'on a perdu la sensibilité à tous les petits bonheurs, les ici, maintenant, etc. On n'est plus conscient de ça. Et on a besoin de quelque chose de plus excitant. Comme les gens qui font des petites drogues pas conséquentes et qui doivent augmenter le feeling à chaque fois jusqu'à
les
drogues dures. Mm-hmm. C'est la même chose pour ces filles. Quand on pense que le seul bonheur, c'est de tomber amoureux, on a comme un problème de relation humaine qu'il faut régler avant de parler d'amour.
Absolument. Puis on revient à la première phrase que tu as dit, qui est d'être capable de rester seul dans une chambre pendant une heure. Ça pourrait être la base qui réglerait cette phrase,
exactement.
Selon moi. Donc cette semaine, sur le plan culturel, j'ai eu envie de parler d'une activité qu'à 32 ans, j'ai 32 ans, je n'ai jamais fait encore et que je trouve déplorable et que j'adorerais faire, et c'est du chien de traîneau. Est-ce que tu en as fait, toi, Robert, déjà dans ta vie?
Oui, j'en ai fait.
Comment t'as vécu ton expérience?
Tu veux vraiment le savoir?
T'as-tu une anecdote, quelque chose?
Ben oui, j'ai quelque chose certain.
Oh mon Dieu, on écoute.
Je fais mes émissions à ce moment-là où je raconte des affaires à la radio et je suis dans le Yukon. Et quelqu'un me dit, il y a une famille que tu pourrais interviewer longuement pour raconter leur histoire. Et c'est effectivement une famille fabuleuse, on ne s'embarquera pas là-dedans.
Okay.
Mais c'est à 20 km en suivant la rivière qui est gelée. Et on va te donner un musher avec des chiens et tout. Mm-hmm. Et on fait à peine un kilomètre et le musher m'a dit, « You're too heavy, t'es trop lourd pour le... Il dit, « Moi, je vais monter dedans. »
Puis et toi,
tiens-toi sur les patins à l'arrière, comme eux, ils font d'habitude.
Ouais.
Mais moi, j'ai pas d'habitude de ça.
Ah oh, non!
J'ai un vieil habit de skidoo que quelqu'un m'a prêté. Je n'étais pas parti pour ça. J'ai pas fait un demi-kilomètre que je suis tombé, mais j'ai tenu les barreaux. Et j'ai fait au moins 10 kilomètres parce que quand on est arrivé, j'avais à peu près plus de linge sur le dos. Tout avait été déchiré. Lui était pacté en avant puis il me voyait pas. J'avais des lacérations partout. Ça a pris trois jours à guérir. Oui. Alors oui, j'ai fait du chien de traîneau. Je les ai fait à plein ventre, le chien de traîneau, puis des bouts sur le dos, parce que j'étais tanné de me faire accrocher les organes génitaux au bout de des bouts de glace. Voilà.
J'aurais
tu voulais le savoir, tu l'as su.
Ça n'a pas de bon sens, mais j'espère qu'à la maison, ça vous tente d'aller faire du chien de traîneau. Sachez tant quelle année, ça, Robert.
N'ayez-vous pas ces patins si vous connaissez
c'est
pas
au
ça.
Yukon. C'est au Yukon, et ça fait plusieurs années. Et il y a moyen que ce soit beaucoup plus agréable, j'imagine. Ils doivent mettre des clochettes à ce temps, je ne sais pas, quelque chose.
Ben,
pas
les miennes étaient maganées, les clochettes, je veux dire ça.
Mais étais-tu blasé de son travail, quelque chose, ce macheur-là? Il était-tu comme un peu dans le « je m'en fous » un petit peu de qui c'est qui est là?
Plutôt dans l'alcool que dans le « je m'en fous ».
Ah! Alors voilà. Et non, mais bon, tu dis ça, mais c'est parce que, pour moi, j'ai choisi de vous présenter les 10 meilleures places pour du chien de traîneau. On est encore en hiver, on a bien du temps, mais c'est important pour moi. Puis tu viens un peu de le nommer parce que, c'est important de choisir, quand on arrive à des activités comme ça, des places qui sont reconnues pour votre sécurité, celle de vos enfants si vous décidez d'y aller en famille, mais également pour les chiens.
Ces endroits sont tous au Québec, là?
Oui.
Oui, parce que je connais quelques exploitants en Gaspésie d'excursions comme ça.
Oui.
Et leurs clients sont exclusivement des Français.
Oh!
Ils n'ont pas de Québécois qui y vont.
Ah ben.
Donc, vas-y.
Ben on verra, puis tu nommeras si jamais je les ai retracés. Mais c'est important pour moi parce que, amoureuse des animaux que je suis de manière absolument incroyable, c'est important aussi pour moi que ce soit des compagnies qui prennent soin de leurs animaux et de leurs chiens. Donc voilà, pour que ce soit bien pour tout le monde, c'est important d'aller dans des endroits qui sont reconnus et qui font bien leur travail. Et tout d'abord, je vous parle de la station touristique du Chêne, Capitale-Nationale. D'ailleurs, j'ai passé la dernière fin de semaine avec ma famille et l'argent. On se voit plus à Noël, donc on a passé une belle fin de semaine au chalet. Et c'était à la station touristique du Chêne. Et c'est Aventure Inukshuk qui vous invite à aller faire du chien de traîneau, des randonnées en traîneau à chien de 3 heures ou encore de 7 heures. C'est long, là. Attelez-vous pour la journée. Et c'est un milieu qui est majoritairement boisé, des sentiers qui sont exclusivement dédiés à la promenade canine. Et il y a plusieurs aussi niveaux de difficulté qui va de familial à technique. J'imagine qu'à technique, on est rendu à devenir notre propre musher. S'il vous plaît, assurez-vous d'avoir la formation qui est nécessaire avant de vous aventurer dans un tel rôle. Pour ne pas finir comme Robert qui se l'est vu proposer malheureusement dans une situation où il n'avait pas les compétences pour le faire. Si vous êtes intéressé à faire l'aventure Inukshuk, rendez-vous au www.aventureinukshuk.qc.ca. Maintenant, dans le coin de Saint-Nicolas, Chaudière, Appalaches, on a le chenil La Poursuite qui est dans le secteur de Lévis cette fois-là et on a une meute de 250 magnifiques chiens qui vous attend là, des chiens de traîneau, c'est des huskies et des malamutes. Et on peut passer la nuit là, passer la nuit en tipi ou en chalet. C'est vraiment quelque chose qui est original, je trouve. Et les randonnées sont de 1 heure à 24 heures, bien sûr, avec la possibilité aussi de combiner avec la motoneige. Si ça vous intéresse, www.chenillapoursuite.com. Chenillapoursuite.com, je vais leur dire, mais ça me semble que c'était pas clair. Saint-Aimé-des-Lacs à Charlevoix, à proximité du Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. C'est la compagnie Descente Malbaie qui vous propose de faire du chien de traîneau à travers les montagnes. Et on vous invite aussi à retracer des traces d'animaux divers, comme des loups, des orignaux, renards, lynx, lièvres, perdrix. On est des lynx, là, tu sais, je veux dire... Même pas qu'on avait ça au Québec, mais j'ai normalement... Hey, sérieux, je me fais tellement juger par les gars ici, mais vous pouvez me juger, moi, ça me dérange pas.
Écoute, ma patrouille chez les scouts s'appelait les Lynx. Voyons donc, il y a ça au Québec.
Moi, j'ai juste fait les 4H, puis je me rappelle juste du Bersoton, en tout cas. Pour plus de renseignements, descentemalbaie.com, descente au singulier, la pourvoirie du lac Blanc en Mauricie. C'est la pourvoirie du lac Blanc de Saint-Alexis-des-Monts qui vous fait un départ de l'auberge ou des chalets avec un musher, le conducteur de l'attelage, bien sûr, on s'en rappelle. Et vous allez être dans des décors qui sont exceptionnels. C'est des randonnées de 30 minutes à 3 heures qui vous sont proposées. Vous avez aussi plusieurs autres activités que vous pouvez faire, donc de l'avion sur ski, motoneige, activités guidées et de l'hébergement sur place. Pour plus de détails, visitez le www.pourvoirielacblanc.com. Possibilité d'aller au Mont-Tremblant, dans le coin des Laurentides, le centre d'activité Mont-Tremblant vous y invite et vous avez un guide certifié en secourisme et en tourisme qui vous accompagne cette fois. Et c'est des huskies sibériens, je ne sais pas, pour ceux qui sont à même, qui sont plus poussés dans les races canines. C'est peut-être pour vous quelque chose qui peut vous intéresser. Le www.tremblantactivities.com en anglais. Chalet et villégiature est là. Jean-Sébastien, je vais avoir encore besoin de toi comme la semaine dernière pour ma prononciation. À Dacam, en Chaudière-Appalaches. Chalet et villégiature Dacam, D-A-A-Q-U-A-M. Robert, non, hein? Moi non plus, je n'étais pas au courant. Mais il vous propose de devenir musher d'un jour avec des huskies. Le parc des Appalaches et ses 100 km de sentiers dans les forêts appalachiennes et boréales, lacs et rivières gelées. Et le site qui vous est proposé est le lauréat régional des Grands Prix du tourisme québécois de 2014. Donc, ça ne doit pas être lettre. Si ça vous intéresse, rendez-vous au www.dacam.qc.ca.
Et on y mange très bien.
Oui, je n'y suis jamais allée. Fjord du Saguenay, Côte-Nord, au centre de vacances Ferme 5 étoiles qui est situé à Sacré-Cœur. Encore une fois, vous pouvez vous-même devenir votre musher et c'est à la portée de tous. On vous donne une formation sur la méthode de l'attelage des chiens. Vous pouvez encore une fois combiner votre expérience avec une nuitée dans une yourte ou une cabane dans les arbres. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Si ça vous intéresse, ferme5étoiles.com, 5 étant chiffre. Vallée de la Matapédia en Gaspésie, c'était cela? C'est là l'endroit où... Non, c'est pas là. Robert, tu peux parler.
Non, c'est pas là. Continue.
C'est l'expert Maxime Fournier, qui est guide de plein air et propriétaire de l'entreprise Traîneau à chiens Gaspésie, qui vous fait découvrir les paysages de la forêt gaspésienne. Et c'est une gamme variée de forfaits plein air qui vous attendent. C'est 100 km de sentiers aménagés dans la seigneurie du lac Matapédia. Le www.traîneauachiensgaspésie.ca pour plus de détails. Saint-Edmond, les plaines, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est attraction boréale. Et là, attention, il y a 1000 km. 1000 km! Dans les forêts boréales et on peut aller jusqu'à un séjour de 3 semaines.
Faut aimer ça, hein?
Faut aimer ça. www.attractionboréale.com. Et finalement, Rodden, dans la Naudière, chez Kinadapt, qui vous offre toutes sortes de choses, même des activités qui sont adaptées aux plus jeunes et à la famille. Donc, n'hésitez pas à porter vos enfants là cette fois. www.kinadapt.com. Des bonnes nouvelles, on n'en a jamais assez. Robert, cette semaine?
Buenos Aires.
Qu'est-ce que
c'est? À Buenos Aires, j'ai toujours aimé cette ville-là. Et on a une escouade spéciale qui ramasse tout ce qui est carton, tu sais, des boîtes de carton, prennent les contenus, les mettent dans des sacs à déchets pour conserver et recycler des cartons. Ça, c'est Buenos Aires. Mais il y a un autre endroit qui est assez extraordinaire aussi, qui est São Paulo, au Brésil.
Mm-hmm.
São Paulo, au Brésil, a toujours, depuis longtemps, des problèmes d'eau polluée parce que c'est pas facile comme ville. C'est une ville culturellement extrêmement intéressante, davantage que Rio, d'ailleurs. Vraiment fabuleusement intéressante. Mais il y avait un problème d'eau sérieux, on en manquait, c'était pollué. Ils ont trouvé une nappe phréatique assez profonde qui avait une eau absolument impeccable, complètement pure. Et au lieu de la laisser à l'industrie privée, comme c'était le plan, chaque secteur, chaque quartier de la ville s'est fait une coopérative et est devenu collectivement donc propriétaire des puits creusés pour atteindre cette nappe phréatique. Et à partir de l'eau qui était distribuée dans le quartier, ils ont fait des fermes, des jardins communautaires, bio. Et l'ensemble de la ville de São Paulo actuellement a accès jusqu'à à un pourcentage de 30 %, c'est énorme, à de la culture bio, des légumes bio, une eau absolument impeccable. Et c'est géré, donc les profits vont aux habitants du quartier qui augmentent leurs possibilités, etc. C'est une des plus belles initiatives que j'ai vues dans le domaine de l'eau potable. Et c'est la propriété des coopératives d'habitation, des coopératives d'urbanisation de la ville de São Paulo. Et quand on connaît São Paulo, ça n'a pas dû être un cadeau de tout organiser ça, mais ils ont réussi le coup.
Oui, parce qu'on aurait pensé que les plus hautes directions auraient pu refuser cet accès-là ou donner la propriété ou la priorité.
Surtout que la haute direction est assez près des compagnies privées.
Tu sais, c'est ça, c'est fabuleux, je veux dire, c'est un tour de force. Là.
Une très, très belle initiative, comme tu dis, et cette eau-là, il s'en sert pour faire toutes sortes de choses intéressantes, comme des jardins.
Moi, les jardins biologiques, parce qu'on sait que le véganisme est une des choses que... Non, OK, tu veux pas que je parle d'être végétalien?
J'ai pas décidé quoi que ce soit, c'est toi.
Simplement dire que tu as dit que c'était 30 %, donc juste pour que je comprenne bien,
30 % des gens dans les quartiers achètent leurs légumes parce que c'est à prix réduit. Mais ils sont meilleurs que les autres légumes.
Ben, garde. Incroyable.
Magnifique.
Je trouve ça fabuleux. On a des choses comme ça, mais moi, j'aime ça qu'on aille à l'international parce que comme ça, les gens qui nous écoutent et qui ont le pouvoir de changer les choses pourraient s'être, inspirés. Comme j'ai vu passer sur Facebook, je sais pas pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mais moi, j'ai trouvé sur Facebook hier, ça m'a passé usage. C'est dans quel pays, donc, déjà, je vais... En Alaska. C'est en Alaska qu'il y a une gratte, communément appelée.
On est aux États-Unis, là.
On est aux États-Unis. Mais parce que je viens de retrouver ma feuille, là, je me rappelais pas où j'avais... Parce que j'en vois tellement passer. Mais j'ai dit, il faut que je garde ça. Donc, pour ceux qui ont la chance de prendre les décisions, hein, il y a une gratte qui existe, Robert. Imagine-toi donc, là, qui appartienne à la ville, qui appartienne... Et qui... Oh, un petit clapet qui a l'air simple au côté, dans le bas, et qui se descend quand la gratte arrive en face des entrées privées des gens. Et donc, quand on passe la gratte dans les rues, hein, et qu'on arrive dans un endroit privé, on baisse le petit clapet, et là, la neige ne va pas dans les entrées privées des gens. Et on fait simplement remonter quand on réarrive en face du terrain. Alors, pour ceux que ça inspirait... Il y a des possibilités.
Mais pourtant, pour la santé publique, c'est bien de pelleter son entrée.
Malgré qu'il y a beaucoup de crises cardiaques qui arrivent pendant le pelletage, on sait.
Si c'est des vieux comme moi, c'est sûr que c'est pas une bonne chose.
Mais je pense qu'avec la neige qu'on a eue cet hiver, je suggère gentiment, sans obligation, que les galeries, escaliers, cours et automobiles à déneiger soient un nombre suffisant... à notre santé et qu'on n'ait pas besoin de pelleter la neige que les villes nous envoient dans nos propriétés privées en plus.
À qui tu fais une demande comme ça?
À ceux qui écoutent puis qu'ils peuvent faire quelque chose.
J'aimerais savoir leur nom, leur numéro de téléphone pour un suivi là-dessus.
Et t'avais-tu une deuxième nouvelle pour nous cette semaine?
Non, Robert? Celle-là me satisfait pleinement.
Toi, mais c'est ça, toi, t'as comme été chamboulé là, de
ben,
ça.
Bien, je connaissais bien cette ville-là et je trouve que c'est extraordinaire. Connaissant le degré de pollution de cette ville, c'est fabuleux qu'ils soient arrivés à ça.
Ben moi, je voulais juste être poli parce que moi, tu sais bien que j'ai autre chose, mais je trouvais ça vraiment, vraiment important de te parler. Qu'à Nottingham, en Angleterre, il y a un premier distributeur pour sans-abri qui a été mis en place par l'organisme à but non lucratif Action Hunger, ou Action contre la faim en français. C'est un distributeur qui a été placé à un endroit stratégique dans la ville qui est gratuit et qui contient des éléments essentiels comme de l'eau, des fruits, des sandwichs, des serviettes chaudes, tuque, bas et... On distribue des cartes électromagnétiques pour les personnes sans domicile fixe. Il y a plus d'une centaine de cartes qui ont été distribuées jusqu'à présent. Et les personnes qui n'ont pas de maison peuvent choisir 3 items par jour. C'est ouvert 24 heures sur 24 et c'est une initiative majeure parce qu'il y a un taux d'itinérance qui a augmenté de 134% dans les 7 dernières années dans cette ville.
À Nottingham, on aide les démunis comme
oui.
ça? Mais c'est la tradition de Nottingham. Robin Desbois était là.
Ah! Et on vise 25 à 30 machines d'ici la fin de l'année 2018. Et dès février, New York et Los Angeles s'ajoutent à la gang à Camp Montréal. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui prennent les décisions, encore une fois, c'est une belle suggestion, je pense, pour changer les choses. Merci, Robert, d'avoir été à mes côtés encore une fois.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Merci à Michel Sirois d'avoir accepté notre invitation. Merci à Jean-Sébastien La Liberté à la régie. Et merci à Catherine Bourderon à la recherche. On se dit à la semaine prochaine.